Cette fois, il faut très sérieusement en terminer définitivement avec Hobbes. Donc on va reprendre le texte, on n'avait pas eu le temps de terminer l'autre fois, dans une lecture un peu serrée, parce que c'est vraiment un enjeu. Il nous faut d'abord en terminer avec Hobbes pour comprendre Rousseau, parce que Rousseau ne peut pas se saisir sans avoir en tête Hobbes. D'une part parce qu'il s'en inspire pour une bonne part, et en particulier le contrat social de Rousseau est largement dans le sillage du Léviathan de Hobbes. Donc je rappelle que les textes là qu'on a commencé d'étudier ensemble sont extraits du Léviathan. Donc Rousseau est bien dans le sillage, dans une certaine continuité, mais en même temps, et c'est ça qui est passionnant, Rousseau est en rupture. Il fait un réel pas de côté par rapport à Hobbes et nous offre une autre perspective à la fois anthropologique, éthique et politique. Les trois plans étant indissociablement liés dans la pensée aussi bien de Hobbes que celle d'un Rousseau. La perspective anthropologique étant une perspective qui se veut être une analyse objective de, entre guillemets, la nature humaine. On avait abordé toute la complexité et les ambiguïtés autour de la notion de nature. Chez Hobbes, c'est donc du droit naturel, des lois naturelles, etc. Je n'y reviens pas. Donc ça, c'est la perspective anthropologique. La perspective éthique, ou alors si vous voulez, morale, parce qu'en plus, à l'époque, les deux termes ne se sont pas dissociés comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un distinguo récent, très récent, entre éthique et morale, qui est assez pratique. On met sous le mot morale tout ce qui est précepte normatif. On met sous le mot éthique ce qui est une démarche existentielle, subjective, permettant d'avoir une vie conforme à une forme de sagesse, de raison, enfin ça dépend après des éthiques. Voilà la distinction qu'on fait entre morale et éthique aujourd'hui, qui est pratique. Mais c'est vrai que du temps de Hobbes, du temps de Rousseau, les deux termes, au fond, s'équivalent. Et d'ailleurs, jusqu'à Sartre, qui est du XXe siècle, comme vous le savez, avait le projet, et qui n'est abouti qu'à de façon posthume, de prolonger sa critique de la raison dialectique, qui est précisément une réflexion sur le collectif, l'être ensemble à travers l'histoire, de le prolonger par une morale. Et lui appelait ça morale. Et ce qui a été publié par sa fille adoptive après sa mort, donc à titre posthume à partir de ses brouillons, s'appelle « Fondement pour une morale », si j'ai bien en tête le titre, mais en tout cas, il y a le mot « morale » dans le titre qui a été adopté. Donc une morale et une politique, au sens où c'est aussi une pensée qui tente de tirer quelques principes pour organiser une société juste et un gouvernement juste et conforme aux exigences du bien, donc de la raison. Donc ces pensées sont indissociablement anthropologiques, éthiques et politiques. Donc dans le texte que nous avons largement entamé de Hobbes, c'est le chapitre 13 de la condition du genre humain à l'état de nature. Je parcours très brièvement, il y a des didascalies, donc c'est très pratique, le cheminement. Donc toute la première partie sur laquelle on ne va pas revenir, que je résume, est une partie anthropologique en quelque sorte, un constat, une base selon quoi l'homme à l'état de nature est en fait fait d'individus égaux. Il y a un principe d'égalité qui est posé très clairement chez Hobbes. Donc il n'y a pas clairement chez Hobbes l'idée de hiérarchie naturelle. Et il montre, c'est intéressant d'ailleurs, comment, contrairement à ce que peut penser, je crois que c'est intéressant de penser dans ce sens-là, aussi bien d'un point de vue physique, au fond, on est à peu près égaux. Même si certains sont plus forts que d'autres, si certains sont en meilleure santé que d'autres, ce que dit Hobbes, c'est qu'au fond, la différence est tellement minime que ça ne met pas en cause un principe d'égalité. Et puis tu erres, on mourra tous à peu près de la même façon, si on peut dire. Voilà. Donc égalité physique et aussi égalité intellectuelle, force intellectuelle à peu près équivalente entre tous les hommes. Et là aussi, ce qu'il dit, c'est que les différences, eh bien au fond, elles ne sont pas si déterminantes que ça, que ça mettrait en cause un principe d'égalité. Il en tire de cela un second constat qui est au fond l'amorce de la base de sa pensée, de la pierre angulaire, si on peut dire autrement les choses, de sa pensée, c'est que c'est précisément le principe d'égalité, l'état égalitaire de l'homme à l'état de nature qui engendre la défiance et, pour finir, l'état de guerre de tous contre tous. Pourquoi ? Ben parce que précisément, les hommes étant égaux, ils se comparent. La comparaison est possible. La comparaison n'est pas possible dans des sociétés holistes traditionnelles, comme la société indienne traditionnelle ou toutes les sociétés traditionnelles, qui sont basées à l'inverse sur un principe de hiérarchie ou sur la conviction que l'état humain est un état hiérarchisé, inévitablement, parce que dans ces sociétés-là, on ne peut pas se comparer. Chacun étant sur un plan différent, la comparaison n'est pas possible. Regardez la société indienne, hindoue, hein, par caste. Entre les castes, on ne se compare pas. Ce qui fait le bazar aujourd'hui en Inde, si j'ose dire, c'est que ce holisme hiérarchique est aujourd'hui remis largement en cause. Il y a un conflit entre deux systèmes par l'égalitarisme de ce que Louis Dumont, l'anthropologue et philosophe Louis Dumont, appelait par opposition aux sociétés holistes, l'égalitarisme des sociétés européennes, occidentales, de la civilisation occidentale basée sur l'individualisme. Hein, Louis Dumont, je fais déjà allusion à lui à plusieurs reprises, oppose ces deux grands modèles. Le holisme, on utilise aussi l'article holiste, T-E, ou pour ceux qui veulent faire plus anglais, holistique. Donc ça s'applique aussi bien en médecine. Les médecines holistes, c'est des médecines qui ont une approche de la maladie du corps, dans une approche globale du corps comme une totalité, donc qui vont s'attacher à ne pas s'intéresser et à soigner un symptôme qui n'est qu'un symptôme, mais à considérer que le symptôme renvoie au fonctionnement ou au dysfonctionnement de la totalité du corps. Par exemple, les médecines de type homéopathique sont holistes et les médecines traditionnelles sont généralement holistes. Et holisme, c'est un terme qui est né aussi de l'anglais scientifique pour l'anthropologie. Ça désigne un type de société qui sont toutes les sociétés en gros traditionnelles. Alors, holisme, ça vient du grec holos, qu'on peut transcrire en français H-O-L-O-S. Et holos, ça veut dire le tout. C'est un tout. C'est un tout, mais le tout comme totalité. Contrairement à un autre mot grec qui est pan, P-A-N, qui a aussi donné plein de mots en français, pan, pantos, au génitif. Pan, qui a donné pandémie, panorama. Là, c'est le tout pluriel, le tout dans l'idée de pluralité. C'est-à-dire le tout, tous, les multiples. Holos, non, c'est tout comme une totalité, qui correspond au mot latin intégrus, l'intégrité, par exemple. C'est bien l'idée d'une totalité homogène. Voilà d'où vient le mot holisme, aussi bien pour la médecine que pour désigner un modèle anthropologique ou un parti pris anthropologique quant à l'organisation humaine. Donc, il est clair qu'on le comprend par comparaison et par contraste. Dans les sociétés qui sont basées sur le principe de holisme, la hiérarchie fait qu'il n'y a pas de comparaison. Je veux dire, un intouchable ne jalouse pas quelqu'un qui appartient à la caste. Voilà. Alors que dans une société basée sur l'idée qu'au départ, les individus sont égaux, évidemment, il y a la comparaison entre les individus qui est facilitée par cette vision du monde. Et la comparaison amène la concurrence, amène à la fois l'émulation, la compétition, la concurrence, mais aussi, du coup, la défiance entre les individus. Et Hobbes, ben ça, je n'y reviens vraiment pas, c'est toute la première partie que nous avons abordée la dernière fois, montre comment de ceci découle un état de guerre permanent, de tous contre tous, qu'il résume par sa fameuse phrase qui n'est pas de lui, « Homo homini lupus », l'homme est un loup pour l'homme. Bien, je ne reviens pas du tout là-dessus. Donc, face à cette menace permanente qui pèse sur chacun, pour qu'il y ait société, dit Hobbes, il faut imaginer que l'on passe du droit naturel, c'est-à-dire de l'état de nature tel qu'il est postulé, à une construction humaine, c'est-à-dire à des lois naturelles. Donc, je ne reviens pas sur le distinguo qu'il fait entre les deux. On l'a déjà abordé, je ne peux pas revenir dessus. Mais disons que les lois naturelles, c'est des lois construites à partir des constats de ce qu'est l'état de nature et qui sont conformes à la raison humaine et qui peuvent édifier un mode d'être ensemble, un mode de société qui permet de dépasser l'état de guerre permanent entre les hommes et de créer une coexistence possible. Une coexistence harmonieuse possible entre les hommes. Voilà la grande idée d'Hobbes qui va fonder au fond, la société dans laquelle nous vivons. Il faut dire que Hobbes était d'autant plus sensible à ça, je vous le rappelle, détail biographique essentiel, c'est qu'il a vécu ces périodes très difficiles de la guerre civile en plusieurs épisodes anglaises. Il a été véritablement traumatisé, comme on dirait aujourd'hui. On ne dirait pas ça à l'époque de Hobbes, c'est langage psychologisant, mais il a été complètement marqué, traumatisé par la guerre civile, qui est précisément, historiquement, l'état de la guerre de tous contre tous. C'est pour ça que les guerres civiles sont d'ailleurs toujours plus dures, plus barbares que les guerres conventionnelles. Parce que les guerres conventionnelles, elles ont beau être extrêmement violentes, elles obéissent à des règles, les règles auxquelles les armées se conforme, alors que la guerre civile, c'est vraiment l'état de guerre de tous contre tous. Regardez encore récemment, on pourrait dire d'une certaine manière qu'en Europe, ce qui a été le plus barbare dans l'histoire récente, c'est la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Pensez aux écrits, vous avez lu ça dans l'actualité, mais pensez aussi aux écrits de ce romancier qui est extraordinaire, que j'avais fait venir il y a quelques temps, Vilibor Čolić. Ça s'écrit C-O-L-I-C avec des accents partout. Qui est ce bosniaque extraordinaire qui s'est engagé volontairement dans l'armée bosniaque de libération et qui, face aux exactions des siens, n'a pas pu continuer. Il a déserté, bref, il a été repris une première fois, il a failli être tué par les siens, il s'est échappé à nouveau et puis il a pu être exfiltré en France. Et donc, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, il vit en France et il écrit en français désormais. Et ses romans sont en français alors que, quand il est arrivé en France, il ne parlait pas français. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire, c'est un géant d'ailleurs, pilier de rugby. Et donc, ses romans sont intéressants parce qu'ils sont durs, mais en même temps, il y a une poésie intéressante de l'écriture, parce qu'ils tournent autour de ce qui est précisément la guerre de tous contre tous, la guerre civile. Et il décrit enfin, ce qu'il a vécu, quoi. C'est assez édifiant ce qu'est la guerre civile. Voilà, donc Hobbes est obsédé par la question historique, cette fois, pas anthropologique. Comment faire qu'on en finisse définitivement avec la guerre civile, avec la possibilité de la guerre civile. Alors, à partir de là, on va reprendre le fil du texte à partir, disons, de la page 231. C'est juste après le passage sur lequel je ne suis pas revenu, qui consiste à différencier le droit de nature et la loi de nature, c'est-à-dire le droit naturel et les lois naturelles, et où il pose la nécessité d'organiser l'état de nature qui obéit au droit naturel, c'est-à-dire à la liberté, en fait, de mouvement, à la puissance de vie, à la pulsion de vie des humains, quoi, de chaque être humain, et qui a abouti au fait que chacun tente de bouffer l'autre. D'ailleurs, ce principe, on le retrouve à l'œuvre dans notre société qui connaît peut-être aujourd'hui le moment d'essoufflement, d'épuisement définitif de la solution Hobbes. C'est pour ça qu'il faut penser autrement. Probablement que l'enjeu aujourd'hui, c'est que la solution Hobbes nous a permis de faire tenir une société, en Europe du moins, qui tenait bon an mal an. Probablement qu'aujourd'hui, on est le moment où on atteint la fin, l'essoufflement de cela. Comment puis-je dire ça? Par le constat simple qu'aujourd'hui, d'une manière pour le moment moins barbare, moins sauvage que la guerre civile ouverte, on est dans un état de guerre, d'une certaine manière, permanente entre les individus. Regardez un précepte, alors c'est une version soft, mais la logique est celle-là. Regardez, d'une certaine manière, comment aujourd'hui, on a tendance à intérioriser comme loi de survie, de vie, ce que beaucoup de gens disent aux enfants. Ne te fais pas bouffer, bouffe, bouffe les autres. Ne te fais pas bouffer, toi. Ne te laisse pas bouffer. C'est un langage qui est utilisé de façon très éloquente. Il ne faut pas se faire bouffer, il faut bouffer. Qu'est-ce que c'est si ce n'est une métaphore, un langage métaphorique qui renvoie bien à l'idée d'être un loup pour l'homme. On ne voit pas d'écart. C'est précisément ce schéma-là. Alors, en termes plus soft encore, c'est en termes anglais. C'est toute l'apologie du winner contre le loser. C'est la même logique, fondamentalement. Et on voit comment ça fait une société qui a aujourd'hui de plus en plus de difficultés à tenir ensemble, à ce que ça tienne ensemble. Je postule qu'au fond, c'est la leçon des Grecs, des écrivains grecs qui sont venus au banquet de printemps. Au fond, ce qu'ils disaient, c'est qu'on parle de crise économique, certes, mais la crise économique, c'est d'une certaine manière qu'un symptôme ou un épiphénomène. C'est que fondamentalement, la question qui est posée à la société grecque, mais à la société européenne dans son ensemble, elle est anthropologique aujourd'hui. C'est précisément ce que nous disent les Grecs, entre autres. Et cette crise, Thanasis Hatzopoulos, qui l'a bien résumé, il dit, c'est la crise de Comment répondre aujourd'hui à la question « comment vivre ?» qui est une question de Platon d'ailleurs. Comment vivre ? La crise, c'est qu'on ne sait plus aujourd'hui quelle peut être la bonne réponse commune à comment vivre. C'est quoi inventer un mode de vie commun ? C'est ça qui est en jeu. C'est dire qu'on est au moment d'épuisement de la solution Hobbes. La solution de Hobbes, je la rappelle d'un mot, mais on va la lire, c'est le contrat. Ce que reprendra, c'est là qu'on voit le sillage avec Rousseau. Le contrat social, c'est un des livres majeurs de Rousseau. Le contrat, c'est la réponse que propose Hobbes. Et probablement qu'aujourd'hui, on vit le moment où le contrat est partout. On est régi dans les moindres relations quotidiennes humaines par le contrat aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte toujours bien. Des fois, on réalise qu'on est lié à l'autre par un contrat quand il y a un problème et qu'il y a un procès. C'est là qu'on se rend compte que la relation quotidienne informelle, il n'y a pas d'écrit qui peut nous lier à l'autre, et au fond, une relation basée sur le contrat. C'est ce qui permet l'idée que quand il y a conflit, il y a un tiers judiciaire qui est nommé d'un accord commun entre l'un et l'autre pour tenter de résoudre le problème. Où on voit qu'aujourd'hui le contrat pose problème, on peut analyser les choses comme ça, c'est qu'il y a de plus en plus de judiciarisation de toutes les relations, ce qui veut dire que le contrat ne va plus de soi et que de plus en plus il y a une espèce de mentalité qui s'impose, selon quoi au fond le contrat c'est pour les faibles, mais les forts peuvent largement passer au-dessus. Obéir à leur propre loi. Le contrat tel que Hobbes le pose et qui se traduit dans les termes juridiques aujourd'hui étant ce qui, précisément, limite d'un commun accord, s'il n'y a pas commun accord, ça ne tient pas, limite la puissance d'agir de chacun. C'est une autolimitation de chacun, le contrat. Et il n'y a que contrat que s'il y a accord de l'un et de l'autre sur sa propre autolimitation. Un des symptômes, une des dimensions de l'épuisement du modèle du contrat hobbesien, c'est qu'effectivement, celui qui suit le contrat apparaît de plus en plus souvent comme un idiot, comme un demeuré. Et celui qui est capable de ruser apparaît comme quelqu'un qui est intelligent, qui est fort, qui est le modèle à suivre. Alors que celui qui se conforme à la loi, c'est-à-dire au contrat, apparaît comme l'idiot de service. Et cela est bien un symptôme de l'épuisement de ce modèle dans tous les domaines. Lisons des passages du texte, c'est bien d'avoir Hobbes dans la tête. Il résume au fond la différence entre le droit naturel et la loi naturelle. Le droit consiste en la liberté de faire ou de ne pas faire, alors que la loi détermine et contraint dans un sens ou dans l'autre, en sorte que la loi et le droit diffèrent autant que l'obligation et la liberté, et se contredisent s'ils sont appliqués à un même objet. Donc le contrat va amener un système d'obligation, c'est-à-dire d'auto-limitation, mais d'un commun accord. C'est ça l'enjeu. Parce que la condition humaine, comme cela a été établi au chapitre précédent, est un état de guerre de tous contre tous, où chacun est gouverné par sa propre raison, et parce qu'il n'y a rien dont on ne puisse faire usage contre ses ennemis, qui ne soit de quelque secours pour se maintenir en vie. Il s'ensuit qu'au sein d'un tel état, chacun a droit sur toute chose, y compris sur le corps des autres. Je ne commande pas, je crois que c'est clair après tout ce qu'on a dit. Et donc aussi longtemps que perdure ce droit naturel de chacun sur toute chose, il ne saurait y avoir de sécurité permettant à quiconque, si fort et avisé qu'il soit, de vivre tout le temps que la nature alloue ordinairement pour la vie. Par conséquent, c'est un précepte et une règle générale de la raison que chacun doit s'efforcer à la paix aussi longtemps qu'il a l'espoir de l'atteindre, et quand il ne peut l'atteindre, qu'il peut chercher et utiliser tous les secours et les avantages de la guerre. La première partie de cette règle contient la première et fondamentale loi de nature, qui est chercher la paix et la maintenir. La seconde, le résumé du droit de nature, qui est nous défendre nous-mêmes par tous les moyens. Donc, l'état de nature qui amène la guerre de tous contre tous, c'est que on a effectivement le droit de ne pas se faire tuer par l'autre. Et donc, on a le droit de tuer l'autre pour éviter d'être tué soi-même. Mais, ce que va introduire la loi de nature par le contrat, c'est que on a beau se croire plus fort dans ce droit de tuer l'autre, inévitablement, on s'expose au risque d'être tué soi-même. Même si on est le plus fort, l'autre, il peut ruser et nous prendre en traite. C'est en ce sens-là que le droit naturel sert quand même de base, c'est-à-dire l'état de nature, aux lois naturelles, c'est-à-dire aux lois en fait artificielles, mais qui sont dites par Hobbes naturelles parce qu'elles s'ancrent sur le droit naturel. C'est que l'humain à l'état de nature aspire à la paix. ou plutôt il aspire à la sécurité. Et il aspire à la paix au sens où la paix peut lui permettre sa conservation, sa propre survie. Donc, dans l'état de nature, chaque homme a un intérêt qui est commun à celui des autres hommes, qui est la sécurité, c'est-à-dire la paix. Entre nous soit dit, c'est précisément pour cette raison qu'encore aujourd'hui et plus que jamais, dans les campagnes électorales par exemple, le thème de la sécurité est le thème le plus porteur, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que le thème de la sécurité, c'est ce que dit Hobbes, clairement. Le politique qui met en avant la question de la sécurité, c'est le politique qui se dit « Si je garantis en tant que représentant justement du Léviathan, c'est-à-dire de l'État, à chacun sa paix, sa sécurité, c'est sûr que les gens vont aller vers moi. » Vu que l'état de nature induit cette aspiration commune à la sécurité. Voilà, il ne faut pas chercher ailleurs pourquoi le thème sécuritaire est si souvent mis, et surtout quand ça se durcit, quand l'issue d'une campagne électorale est incertaine, est autant mise en avant. C'est que précisément, c'est ce qui peut faire la différence. Et de fait, souvent, c'est ce qui fait la différence. À partir de cette loi de nature fondamentale, selon laquelle il est ordonné aux humains de s'efforcer à la paix, on déduit cette seconde loi de nature, que ce soit la volonté de chacun, si c'est également celle de tous les autres. Aussi longtemps qu'il le pensera nécessaire à la paix et à sa propre défense, d'abandonner ce droit sur toute chose et qu'il soit satisfait de disposer d'autant de liberté à l'égard des autres que les autres en disposent à l'égard de lui-même. Alors, je crois que c'est à peu près clair, hein, il n'y a pas de commentaire à faire. Donc là est posé le principe d'une auto-limitation de chacun, l'auto-limitation du droit de chacun sur toute chose. Et toute chose incluant tout être, tout homme. Cette auto-limitation étant envisageable si elle est réciproque. Ça, c'est le principe qu'avance Hobbes. Il faut que ça soit réciproque. Il faut que tout le monde soit d'accord en même temps pour s'auto-limiter. Alors, entre parenthèses, c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre depuis un moment, précisément parce qu'il y a cet essoufflement de ce modèle. On a du mal à l'entendre parce que depuis un moment, on baigne dans le principe inverse de l'autolimitation. Aujourd'hui, on est dans une société, comme dirait Jean-Claude Milner, de l'illimité, où on n'admet plus la nécessité et la positivité de l'autolimitation. On est plus dans l'idée que chacun doit repousser ses limites le plus possible, c'est une vertu, y compris dans le sport, que chacun doit s'épanouir le plus possible, doit obéir à la pulsion de vie la plus illimitée possible, que chacun doit, d'une certaine manière, être le plus performant possible. Et c'est Ehrenberg qui a écrit, ce sociologue qui était venu au banquet d'été l'an dernier, sur le culte de la performance que cultive notre société contemporaine. Et le culte de la performance, c'est quoi ? Le mot performance, c'est un mot qui s'est développé d'abord dans le langage sportif. C'est précisément dans une société de concurrence entre les individus, de concurrence illimitée, faut être le plus illimité soi-même, le plus performant soi-même. Ce qui fait que cette nécessité de l'auto-limitation aujourd'hui est de moins en moins audible. Et c'est bien là aussi à la fois la preuve de l'essoufflement du modèle hobbesien, mais aussi la source de nos difficultés à l'être ensemble contemporain. La source, je dirais, anthropologique de la crise, point. À partir de cette loi de nature fondamentale, selon laquelle il est ordonné, ben ça je l'ai lu, excusez-moi, j'étais déjà plus bas. En effet, aussi longtemps que tout un chacun a ce droit de faire tout ce qui lui plaît, tous les hommes sont dans l'état de guerre. Mais si les autres n'abandonnent pas leurs droits, comme il le fait lui-même, alors il n'y a aucune raison pour qui que ce soit de renoncer aux siens. Ça c'est la nécessité de la réciprocité du contrat. Car ce serait s'exposer à être une proie, et à cela, personne n'est tenu. C'est quand même très profond. Au lieu de se disposer à la paix. Telle est la loi de l'Évangile. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Et la loi de tout le genre humain, c'est la même chose inversée. Tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Et du coup, ça montre comment ? Contrairement aux accusations dont il a été victime dans son époque, il était athée, il a eu toutes les églises, alors je ne parle pas de Rome, mais aussi presbytérienne sur le dos, comme on l'avait vu, et il était taxé d'être athée. En réalité, profondément, la pensée de Hobbes s'ancre dans la Bible et le Nouveau Testament, quoi, très clairement. Alors, l'abandon du droit qui résulte de cela, c'est ce que j'appelle le principe d'auto-limitation qu'amène le contrat. Abandonner le droit que l'on a sur quelque chose, c'est se défaire de la liberté que l'on a d'empêcher un autre de profiter du droit qui est le sien sur cette même chose. En effet, celui qui renonce à son droit ou le transfère ne donne pas à quelqu'un un droit que celui-ci n'aurait pas, pour la raison qu'il n'y a rien sur quoi on n'a aucun droit par nature. C'est intéressant, c'est subtil, c'est que au départ, chacun a tous les droits. Il ne fait que s'écarter du chemin de celui qui, ainsi, jouit de ce droit originaire qui est le sien, sans empêchement de sa part, mais non de la part des autres. C'est ainsi que l'effet produit quand on délaisse son droit ne consiste qu'à réduire d'autant les entraves à l'exercice par un autre du droit originaire qui est le sien. On est là, pour le moment, dans un schéma. Alors, effectivement, c'est exprimé comme un mythe fondateur. C'est pas historiquement, ça se passe pas comme ça. Là, on est dans la première étape de la fondation contractuelle de la société. Deux individus face à face se mettent d'accord pour ne pas se nuire mutuellement. Et ce faisant, d'un commun accord, ils renoncent mutuellement à une partie de leurs droits, à une partie de leur liberté. On en est là. Donc là, on est sur des dyades, sur un schéma de dyades, c'est-à-dire deux individus. Entre parenthèses, je l'avais déjà rappelé, s'ouvre là une perspective, qui va être celle de notre société, très différente de celle, par exemple, que va développer plus tard le philosophe allemand Hegel. Hegel repart du même schéma, deux individus face à face, deux consciences, dit-il, face à face. Mais pour Hegel, il n'y a pas de possibilité de contrat qui tienne. Pour Hegel, dans ce face-à-face, la seule possibilité, alors il le dit au niveau, et c'est une phénoménologie qui est très belle, au niveau de l'affrontement des regards. L'affrontement des regards, c'est qu'en gros, chacun regarde l'autre dans les yeux, et celui qui va gagner, c'est celui qui tient le regard. Regardez ce qui se passe dans ce qu'on appelle les banlieues aujourd'hui, c'est très précisément cela. Et c'est comme ça que ça aboutit parfois à des meurtres aujourd'hui. On est dans ce schéma hegelien. Et donc, de l'issue de ce combat, qui est un combat pour la vie et la mort, va résulter ce que Hegel appelle la dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire que celui qui va tenir le regard, qui n'a pas eu peur d'affronter l'autre, va être le maître. Et celui qui a baissé les yeux, qui a eu peur, qui renonce à sa liberté, par peur de perdre la vie, dit Hegel, il va devenir esclave. Et l'histoire pour Hegel, c'est l'éternelle dialectique du maître et de l'esclave. Il en vient d'une certaine manière à une conclusion un peu similaire de tout autre principe, similaire à Hobbes, c'est-à-dire que pour finir, le dépassement, ça va être dans l'État, l'invention de l'État qui va condenser l'esprit universel. Mais il n'envisage pas cette possibilité du contrat. Et chez Hegel, l'État n'est pas fondé sur le contrat. Alors que chez Hobbes, on en est au moment où ça se précise. Donc, on est dans la scène primitive des deux individus face à face qui, d'un commun accord, s'autolimitent pour avoir la paix entre eux. Mais ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que l'abandon d'une partie de leur souveraineté, comme dirait Rousseau, l'abandon d'une partie de leur liberté, comme dirait Hobbes, l'abandon d'une partie de leur pouvoir, cette auto-limitation, rien ne garantit qu'elle puisse durer. Parce que le désir de puissance, la pulsion première dans l'état naturel, peut à tout moment faire que cet accord éclate par le fait que l'un des deux individus humains va vouloir à nouveau imposer sa force, sa loi à l'autre, sa liberté à l'autre. Donc, il y a une deuxième étape dans le dispositif de Hobbes, qui est abordé après, c'est que cette parcelle de liberté, cette parcelle de souveraineté, cette parcelle de pouvoir que chacun abandonne, d'un commun accord, elle existe toujours, potentiellement. Même si elle est plus agissante en acte, elle est toujours là. C'est-à-dire que chacun a toujours la possibilité d'utiliser tout son pouvoir pour tuer l'autre. Elle n'a pas disparu pour autant, cette liberté de tuer l'autre. Elle est toujours là. Donc, il faut qu'il y ait un transfert. Et c'est le deuxième étage de la fusée hobbesienne. Il faut que cette parcelle à laquelle chacun renonce, mais qui est toujours là, il faut qu'elle soit transférée. Et transférée, la dyade devient tiers, devient triade, il y a un tiers. C'est-à-dire que chacun abandonne, s'autolimite en abandonnant une partie de sa liberté, une partie de son pouvoir, qui est celui de nuire à l'autre, d'avoir un droit sur l'autre, et cette parcelle de pouvoir abandonné, les deux, d'un commun accord, vont la transférer à un tiers. Un tiers désigné d'un commun accord par les deux. Donc le dispositif du contrat, c'est tout ça. Alors, le tiers, au fond, ça va être quoi? Ça va être, au final, l'État, mais l'État, c'est tout de suite le gros mot. Ça va être la loi. La loi concrétisée dans l'institution. Le tiers, c'est l'institution, c'est l'avènement d'une société instituée et qui va garantir la pérennité du contrat, c'est-à-dire la pérennité de la sécurité et de la paix pour chacun. L'institution tierce, c'est sa fonction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le contrat de marchand de moins en moins, il y a le constat que j'évoquais avant, la judiciarisation, c'est-à-dire que la justice, c'est précisément le tiers. Les westerns sont admirables en ce sens où ils décrivent cette problématique. Les westerns, c'est le récit mythologique de cette problématique. Et le problème du shérif, c'est précisément ça. C'est en ce sens-là que les westerns, c'est un genre cinématographique qui est profond, qui est important, qui est essentiel, qui parle, parce que le western, ça dit cette histoire, ça dit cela. Entre parenthèses, c'était aussi tout ce qui est tourné autour de la question du Pax, du mariage pour tous. Ça pose cette question-là, c'est-à-dire qu'un contrat entre deux n'est qu'un demi-contrat s'il manque l'institution du tiers, c'est-à-dire de la loi. C'est ça qui est derrière tous les débats là-dessus. Et donc le contrat, c'est 2 plus 1. S'il n'y a pas le 1, et d'ailleurs les arguments à évoquer, c'était là-dessus, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un tiers qui garantisse. Parce que le tiers, il n'intervient pas en permanence. Le tiers, Hobbes l'explique bien, n'intervient que quand l'accord entre les deux est bafoué par l'un des deux. C'est pour ça que le contrat est souvent invisible. Parce que tant que ça marche bien, tant qu'il n'y a pas de problème que les deux tiennent l'accord, il n'y a pas besoin de rendre visible ce que sous-tend le contrat, c'est-à-dire l'intervention de l'institution tierce. La limite du contrat moral, strictement moral, c'est que quand l'un des deux dit merde, l'autre est sans recours. Je me suis fait avoir plusieurs fois par ce problème-là. Dans l'histoire de l'IP, l'aventure de l'IP, quand j'ai créé des coopératives, etc., et proposé des paris à des personnes de prendre des fonctions de responsabilité en dehors du cadre institutionnel qui est une convention collective. Donc en démarrant, par exemple, sur des salaires et des conditions d'exercice du travail, parce que c'était un pari commun, qui était déterminé moralement par un accord moral, mais qui n'était pas contractualisé véritablement. Eh bien, ça s'est retourné plusieurs fois complètement contre moi. C'est-à-dire que le pari commun, au bout d'un moment, ne fonctionnant plus, je me suis retrouvé au prud'homme. L'autre réinventait le tiers, c'est-à-dire quittait le contrat moral, mais qui n'est pas un contrat, pour passer au vrai contrat, c'est-à-dire le contrat avec le tiers institué. C'est toute la différence, par exemple, entre le droit anglais et le droit français. Et les Français pensent qu'un contrat doit forcément passer par l'écrit. Et en fait, les Anglais ne pensent pas du tout ça. Mais en France, on n'est pas obligé d'écrire. Il y a le contrat. Par exemple, un contrat de travail à durée indéterminée, s'il n'y a pas eu de contrat signé, il est automatique. C'est-à-dire que quelqu'un embauche quelqu'un, il n'y a pas de contrat écrit. Eh bien, s'il y a un problème entre les deux personnes, les prud'hommes considèrent qu'il y a eu un contrat de travail à durée indéterminée. Dès l'instant où il y a une situation qui a été instituée d'un commun accord, qui est qu'une personne travaille pour le compte d'une autre dans une entreprise. Hobbes n'introduit pas directement la question de la morale dans son schéma. On voit bien aujourd'hui où la question de la morale ou de l'éthique est posée, mais plus on en parle, moins elle est efficiente en fait aujourd'hui. Parce que les principes communs sont de moins en moins évidents. Et du coup, ça se traduit par la multiplication de l'aspiration à ce qu'il y ait un gendarme derrière chacun, ce qui est une aspiration sur laquelle joue par exemple beaucoup le Front National, qui est une aspiration fantasmatique d'ailleurs, et se traduit par la multiplication que j'évoquais de la judiciarisation. En particulier, aujourd'hui, les tribunaux sont encombrés par les conflits de voisinage. Problème des gens qui ne peuvent plus s'accorder. Mais heureusement que la loi intervient parce qu'il y aurait beaucoup plus de meurtres entre voisins, je pense, de nos jours. Parce que ça devient passionnel en plus. Un petit problème d'arbre qui dépasse peut devenir vite un problème passionnel. Et on sait que la passion, c'est la mort. Du coup, c'est les évangiles qui l'ont montré, quoi. La passion, c'est la mort. Hein. C'est Jésus qui l'a montré. Donc très vite, le passionnel devient le crime passionnel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, les statistiques, et il n'y a pas qu'en France, sont claires. Les meurtres sont les plus nombreux chez soi et pas dans la rue. Le plus grand nombre de meurtres très loin, sont au domicile et par la famille ou des proches de très loin. Les statistiques sont très claires. C'est en ce sens-là que l'éthique et le politique est lié dans ces pensées-là. Effectivement, à partir de ça, c'est que le juge, quand il est amené à jouer son rôle d'institution tierce, ne peut pas faire fi du plan éthique. Il n'en reste pas qu'au plan juridique, parce que le plan juridique a quand même besoin d'un plan éthique. Et de fait, il fait appel à la bonne foi, il fait appel à toute une série de catégories qui sont de l'ordre de l'éthique et pas que du juridique. Ou plutôt, le juridique prend en compte des catégories qui sont de l'ordre de l'éthique. Après, est un problème que pose notre société contemporaine, qui est le recours toujours plus grand, ça c'est un effet des sciences humaines, à ce qu'on appelle les experts auprès des tribunaux. C'est un problème, c'est un réel problème, parce que, mais que je ne veux pas développer maintenant, parce qu'on n'en aura pas fini avec Hobbes, parce que c'est plus un tiers, il ne joue pas la fonction du tiers institué, d'introduire une instance de savoir qui pourrait dire la vérité du lien qui s'est noué dans la dyade. C'est justement affaiblir la fonction de l'institution tierce. C'est-à-dire le recours aux psychiatres, le recours aux sociologues, même le recours aux psychosociologues, tous ces experts qu'aujourd'hui on fait venir dans les tribunaux, me paraît plus être le symptôme de la difficulté, de l'essoufflement justement du dispositif du contrat hobbesien. Ça entrave considérablement l'exercice de la justice, comme on dit, c'est-à-dire le rôle du tiers institué. Ça le neutralise. C'est le symptôme du fait qu'il y a de moins en moins consensus ou accord généralisé pour une société basée sur ce modèle hobbesien du contrat. Pour moi, je ne peux que le comprendre dans ces termes-là. Ces notions récentes, par exemple, au 18e, Beccaria, qui est un grand juriste, qui est un des fondateurs du droit civil moderne, qui est dans la lignée hobbesienne, dit la responsabilité de l'individu, qui a rompu le contrat en exerçant son droit sur l'autre, doit être sanctionné en proportion de sa responsabilité, en proportion de la gravité de la faute. Eh bien, aujourd'hui, l'expertise vient rouiller ce schéma depuis pas si longtemps que ça. Ça s'est énormément accentué depuis 3 décennies à peu près. Michel Foucault dit des choses éclairantes là-dessus. C'est un effet de l'invention fin du 19e des sciences humaines. C'est là qu'on voit que le contrat hobbesien ne tient plus. C'est que le juge, aujourd'hui, il n'y a plus d'accord pour reconnaître que c'est le tiers institué et que son autorité est instituée par tous. C'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, le juge, son autorité est de moins en moins reconnue. Et elle est de moins en moins reconnue, d'où pour lui la nécessité de s'appuyer illusoirement sur une autre autorité qui serait l'expert. Mais tout ça n'est qu'un symptôme. Le modèle hobbesien s'est constitué dans un cadre contractuel national. Et une des raisons qui fait que ce contrat hobbesien, ce modèle s'épuise, c'est que le cadre national n'existe de moins en moins. Et on voit le problème que pose effectivement une instance tierce supranationale qui est les cours européennes de justice, etc., auxquelles d'ailleurs de plus en plus de gens font recours, ce qui fait qu'il y a un encombrement de plus en plus, qui d'ailleurs annihile l'autorité de l'institution justice contractuelle nationale. Et le problème que ça pose aujourd'hui, c'est pour ça que l'Europe, soit il faut l'abandonner, soit il faut aller très vite au bout de la logique européenne. C'est qu'il y a une instance tierce qui chapeaute en dernier retour l'instance contractuelle de la justice intranationale, alors qu'il n'y a pas à ce jour véritablement de contrat social à l'échelle européenne. Et c'est un des nœuds du problème. Alors, il y a les élections européennes, mais on voit bien que ça va pas assez loin, c'est-à-dire que les élections européennes ne fonctionnent pas comme le contrat social, le nouveau contrat social d'une société. Mais ça veut dire qu'il faut repenser le contrat au niveau d'une société européenne. Mais où on est dans un entre-deux qui pose problème, c'est qu'on est dans un entre-deux. Et cet entre-deux pose problème sur plein de domaines, mais par rapport à ce dont on parle là, parce que néanmoins s'instaure un tiers institué judiciaire, mais qui n'est pas fondé sur un contrat commun. On va lire encore un petit peu de Hobbes. Un droit est abandonné soit par un simple renoncement, soit par son transfert à un autre. Alors, il fait la distinction entre les deux, mais ce qui fonde le contrat social, c'est quand il y a transfert. Il y a renoncement simple quand on ne s'intéresse pas de savoir qui en tirera un bénéfice, ce qui est très dangereux, sauf dans des cas précis, de relations basées sur la pure gratuité. Il y a transfert quand l'intention est qu'une ou des personnes déterminées en tireront un bénéfice. Lorsque l'une ou l'autre de ces façons, on a abandonné ou donné son droit à un autre, on dit qu'on est obligé ou contraint de ne pas empêcher ceux à qui un tel droit a été donné ou abandonné d'en tirer un bénéfice. On dit qu'il doit et que c'est son devoir de ne pas invalider son acte volontaire et qu'une entrave de cette sorte est une injustice et un préjudice étant sine iure. Alors, reprécisons le schéma. Les deux de la dyade ont passé contrat et renoncent à une partie de leur pouvoir qui est de nuire à l'autre, le droit sur l'autre. Cette partie de pouvoir, ils la transfèrent à un tiers. Ce tiers, on en a donné un visage, un nom, l'institution justice. Le tiers, c'est aussi l'État politique. Et le contrat au niveau de la société globale, ça va être quoi ? Ça va être l'invention des élections. Les élections, c'est le mécanisme par lequel chacun transfère une partie de son pouvoir à un tiers qui va le représenter. C'est pour ça qu'on peut parler à propos de l'État. Juridiquement, c'est rigoureusement précis et exact. L'État s'entend comme puissance publique, comme autorité publique. Puissance publique, c'est quoi ? C'est que l'État n'existe que dans la mesure où chacun lui a remis sa parcelle de puissance. Donc puissance publique, c'est puissance commune. Commune résultant de la délégation contractuelle de chacun, de chaque parcelle de pouvoir. Voilà ce que veut dire la notion de puissance publique. Et d'autorité publique, ça veut dire la même chose, au sens où dans l'onglet de Hobbes, authority, Hobbes écrit le Léviathan en anglais, authority veut dire indifféremment, autorité et autorisation. C'est le même mot. C'est accorder à l'autre, reconnaître à l'autre sa capacité d'auteur. Et auteur veut dire agir, acteur. Donc l'autorité publique, c'est cette capacité collective d'agir qui est concentrée dans les mains du tiers institué, qui est l'État. Et d'agir pour maintenir la paix, le respect du contrat. Donc dans l'intérêt général. Et c'est pour cela qu'inévitablement de cela se déduit une troisième dimension juridique du tiers-État, du tiers-État, entendez-le dans un autre sens, qui est que cette puissance publique résultant du contrat, cette autorité publique résultant du contrat, a autorité pour exercer ce qu'on appelle la force publique, légitime à partir de là. Donc c'est la force publique qui permet que ça ne soit pas qu'une potentialité, qu'une puissance, mais que ça puisse être une puissance en acte. C'est-à-dire qu'il puisse exercer le fait que le contrat, c'est une obligation, une contrainte. Et c'est pour ça que dans le droit, il y a un principe qui est une condition sine qua non de tout contrat social, qui est le principe selon quoi nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est pour ça que quand il y a un problème, on ne peut pas objecter au tiers. Ah ben je ne savais pas. On ne peut pas l'objecter. Alors la bonne foi est une infraction flagrante partielle. Parce que la bonne foi, c'est j'ignorais. Il y a un principe de souplesse inévitable auquel le schéma hobbesien va se heurter et que Rousseau va bien penser, c'est que le contrat social, qu'on quitte le schéma mythologique, mythique de la dyade au départ, au niveau d'une société globale. Le principe, c'est que l'intérêt, là j'utilise un langage rousseauiste et pas hobbesien, l'intérêt particulier est parfaitement en miroir, transparence totale, de l'intérêt général. Donc, il n'y a pas de problème à exercer la loi dans le cas particulier, parce que le contrat a permis l'identité entre intérêt particulier et intérêt général. Sauf que la vie, dans son flux permanent, fait que, concrètement, le contrat n'exerce que dans des situations particulières. Et même Hobbes l'a pressenti cela. C'est pour ça qu'il a appelé ce tiers-état le Léviathan, c'est un monstre. Le danger, c'est que la vie génère des situations particulières. Et que si on veut, au nom du contrat hobbesien, que la vie ne soit régie que par la loi claire, nette, qui s'applique dans toutes les situations particulières, le risque, c'est de créer une société totalitaire. C'est là qu'on voit l'embryon de la perversion des démocraties européennes, par exemple, en totalitarisme. Donc, la difficulté, et Rousseau l'a très bien vu, c'est que la loi ne peut pas être particulière, autrement on retombe dans l'arbitraire, elle doit rester générale, mais en s'appliquant à des situations particulières et des intérêts particuliers, elle doit faire preuve d'un empirisme, d'une souplesse, d'un principe de souplesse permanent, et c'est tout le débat que connaissent les juristes, qui fait la nourriture quotidienne des juristes, entre le droit institué et le droit positif, ou autrement dit, la jurisprudence. C'est-à-dire que la jurisprudence, c'est le principe de souplesse, d'adaptabilité permanente de la loi au fait que la vie génère que des situations particulières et qui sont par définition inédites. La critique moderne, enfin contemporaine de Hobbes, qui est fondée en partie, elle se traduit dans une formule, l'État est le monopole de la violence. L'État a capté la violence, a rapté la violence et il en a le monopole. Donc effectivement, c'est le problème. Mais il faut rendre ceci à Hobbes, en justice, que Hobbes a prévu ce problème. Il le dit et il le dénonce. Hobbes dit effectivement le tiers qui est impersonnel, qui est normalement une institution. Il est représenté par des individus qui peuvent exercer effectivement cette violence première de façon inique, de façon injuste. Donc dans ce cas-là, on est retourné, mais Hobbes le dit, dans l'état de nature, à l'état de nature. Mais ce que dit Hobbes, c'est que chaque citoyen redevient légitime à exercer son droit naturel, qui est de se protéger. Donc il ne prône pas une soumission à ce tiers qui exercerait une violence arbitraire, sauvage, sur chaque citoyen. Dans ce cas-là, le citoyen a le droit à la légitimité totale de retrouver son droit à se défendre. Ça ne résout pas le problème, parce qu'on en revient à la guerre civile. Mais contrairement à une critique de Hobbes, il faut dire que Hobbes n'a pas inventé le totalitarisme. Et que même il, contre le totalitarisme, il affirme la légitimité de chacun à défendre son droit et sa liberté. Alors le problème, c'est qu'on retourne à la guerre civile, et tout est à refaire. Mais Hobbes, quand même, dit ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que cet État omnipotent, qui pose problème, de fait, il l'appelle le Léviathan, c'est un monstre, donc il reconnaît que ça peut être un monstre. Mais le Léviathan, c'est un bon monstre. C'est la baleine de Moby Dick. Hein. Moby Dick, c'est le récit du Léviathan, sérieusement. Et c'est ça la grandeur de ce roman indépassable, Moby Dick. Le Léviathan, c'est le bon monstre. C'est-à-dire que l'État est légitime à être un monstre pour peu qu'il reste au service du bon. C'est-à-dire au service de la justice et de la paix. Si l'État devient autre chose, et Hobbes a écrit un petit texte là-dessus, il devient l'autre monstre biblique, qui est le mauvais monstre, le monstre du mal, c'est Béhémoth. Mais l'État doit être Léviathan et pas Béhémoth. S'il devient Béhémoth, les citoyens doivent le tuer, selon le principe du droit naturel. Alors, Hobbes, très clairement, son anthropologie reste son fondement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on construit cet artefact, cet artifice qui est la société instituée, c'est un artifice, une société instituée, que ça va faire disparaître l'état de nature qui fait que les hommes sont des loups. Donc Hobbes est parfaitement cohérent. L'état de nature ne disparaît pas, il est contenu, il est cadré. Mais à tout moment, il peut pointer le bout de son nez. Chez Rousseau, c'est en ce sens-là qu'il y a une anthropologie différente et une perspective différente. Hobbes fait un distinguo qui est très important et très intéressant, justement, entre le don gratuit, la grâce, et le contrat. Le contrat n'est pas de l'ordre du don. Donc, le gros problème qui se pose, si on revient à ce que j'avais dit au début de ce cycle, à partir d'Augustin et de Roberto Esposito, la communauté humaine, ou une communauté, est fondée précisément non pas sur le contrat, mais sur le don. Rappelez-vous, munus, la charge de don en latin. Communauté, être ensemble d'êtres humains qui partagent la charge du don et du contre-don. C'est-à-dire qu'anthropologiquement, la communauté, on le dirait en termes modernes avec Mauss, est fondée sur un lien chaud, un lien chaleureux du don-contre-don. L'opération de Hobbes canalise très bien Esposito et qu'il à la fois admet et dénonce en montrant le prix à payer. Esposito dit qu'il y a un prix à payer, c'est que Hobbes renonce à toute socialité basée sur la communauté. C'est-à-dire renonce à la possibilité de l'échange don contre don. Il annihile cette possibilité anthropologique par la construction du contrat. Le contrat qui est effectivement tout autre chose que le don contre don, vous l'avez compris. Et ce que laisse entendre Esposito, c'est que le désir de communauté, c'est-à-dire le désir du don, la logique du contre-don, ne va pas disparaître totalement pour autant. Donc le contrat crée une société organisée, instituée, qui ne va pas pour autant faire disparaître définitivement une aspiration à un mode d'être ensemble plus chaud, Le problème du contraste, c'est que c'est un mode d'être ensemble froid et sécurisant. Mais forcément froid, parce que dès que c'est chaud, ce n'est plus sécurisant. La relation chaude est une relation qui réamène l'insécurité et la possibilité du meurtre. La relation froide est une relation qui peut permettre une régulation pacifique. Probablement que la question, c'est le tiède. Il faut inventer le tiède, on ne l'a pas vraiment inventé. Le contrat hobbesien instaure une société froide. Et une société froide, ça ne répond pas à cette aspiration que Georges Bataille a mis en évidence, qui est l'aspiration du désir, de la passion, c'est-à-dire de lien régi par le chaud, pour reprendre Hobbes, le don, l'échange don contre don. Donc, le don contre don va toujours ressurgir. Ça c'est le chaud. Historiquement, ça s'est traduit par quoi ? Par le fait que la société européenne a toujours été confrontée à des épisodes chauds qu'étaient les révolutions. 89, 1830, 1848, 1871, et ainsi de suite, et puis dans les autres pays européens. Donc la révolution, c'est quoi? C'est l'introduction d'un épisode chaud. Alors on sait aussi qu'on ne peut pas en rester au chaud. Il faut réintroduire, toutes les révolutions réintroduisent l'institué, c'est-à-dire le contrat hobbesien, mais qui refroidit tout. Donc on voit bien que la question, c'est comment instaurer un lien qui combine le chaud et le froid, sans qu'un tiers personnifié souffle le chaud et le froid. L'aspiration au chaud, je l'ai évoqué sous un visage sympathique, possiblement, mais le visage plus hideux de l'aspiration non satisfaite au chaud, c'est l'extrême droite, c'est le Front National. Hein. Il faut savoir que c'est ça. On peut montrer comment les zones qui votent, notamment dans le sud de la France, fortement Front National, ce sont des zones où des gens souffrent du froid. Et la stratégie habile des militants du Front National, c'est de proposer du chaud. On voit qu'on ne peut pas évacuer avec Hobbes complètement la question du communautaire, pour le dire autrement. La question de la communauté. D'ailleurs, autre épisode sympathique, 68, chaud, a généré toutes les formes de retour à du lien communautaire contre le lien froid du contrat. Ça a été les communautés de retour à la nature, ça a été tout ce que vous voulez, mais on voit bien que c'est ça la limite de Hobbes, c'est qu'il manque du chaud quelque part. Mais en même temps, on sait que revenir complètement au chaud, ce n'est pas tenable non plus. C'est ce que Sartre appelle le groupe fusionnel, au fond. Le groupe fusionnel, c'est l'intensité optimale de l'être ensemble sur le chaud. Montesquieu a tort, c'est l'inverse du climat. Parce que Marseille, chaud par excellence, les quartiers du nord de Marseille qui sont régis par le froid, on voit les problèmes qui se posent aujourd'hui terriblement dans ces quartiers. Le nord de la France, climat froid, la misère est incommensurablement plus grande qu'à Marseille. Néanmoins, pourquoi ce n'est pas l'enfer complètement, malgré cette extrême misère? Et on retrouve un peu la Grèce. C'est-à-dire que tous les gens venant du Sud, qui pour des raisons professionnelles ont dû vivre dans le Nord, sont tous très heureux. C'est une société chaleureuse. Ils ont maintenu un lien chaleureux. Un lien chaleureux, un lien de solidarité. Le film de Yolande Moreau montre cette chaleur de la société nordiste. Et c'est ce qui fait que ça tient quand même un peu. Mais le problème, c'est que là, on est au début où ça a tenu 20-30 ans, ce qui fait que malgré cette extrême misère, on n'en parlait pas. Mais là, c'est en train d'éclater. Et ça donne quoi ? Sanctions implacables. Le Front National qui était implanté dans le Sud, il est en train de s'implanter dans le Nord. Et le problème d'Hénin-Beaumont, c'est précisément ça, en profondeur. Après, il y a des épiphénomènes politiques, mais c'est toujours un épiphénomène, le politique. Le politique, c'est, comment dirais-je, c'est ce qui peut être le déclencheur ultime ou la cause ultime, mais s'il n'y a pas le soubassement sociologique, c'est pas ça qui déclenche. Donc voilà tout ce que Hobbes soulève comme réponse, question, impasse, perspective. Ce n'est pas rien, néanmoins. Ce n'est pas rien du tout. Rousseau, par rapport à notre question de l'être ensemble, de la communauté, du lien, est passionnant parce que à la fois, il est en continuité de Hobbes, mais il est aussi en déplacement de perspective. Il a fait un pas de côté. Il a opéré une rupture qui ouvre une autre perspective partielle. Rousseau, on l'a réduit à des schémas de pensée simples, et c'est bien le problème. C'est que quand on parle de Rousseau, tout le monde connaît un peu Rousseau, connaît des schémas de pensée de Rousseau, mais tout est faux. Tout est faux au sens où Rousseau est une pensée extrêmement complexe, subtile, contradictoire, où la contradiction n'est pas une incohérence, même si des fois ça amène à des impasses, où la contradiction est moteur de sa pensée. La complexité de Rousseau, ben c'est un peu comme Sartre, mais Sartre aujourd'hui n'est plus trop en odeur de sainteté. Il faut toujours un long purgatoire après la mort de quelqu'un. Rousseau, comme Sartre, disais-je, sa complexité tient au fait que c'est un écrivain, profondément un écrivain, qui est philosophe, qui a inventé le genre de l'autofiction, comme on dit aujourd'hui, qui est un romancier, je dirais presque, un narrateur, un conteur, un écrivain, où le style joue un rôle essentiel, c'est-à-dire le travail sur la langue joue un rôle essentiel, c'est une belle langue, mais du coup ça rend beaucoup plus complexe et subtile sa pensée. Et le problème, pour comprendre la pensée de Rousseau et son cheminement, faut aller aussi bien voir dans ses textes à statut, disons, philosophique ou anthropologique, comme discours sur l'origine de l'inégalité, discours sur l'origine des langues, discours sur les arts et contrat social. J'ajouterai aussi l'Émile, traité d'éducation. Donc sur ses textes à statut théorique, à la fois anthropologique et philosophique, et sur ses textes qu'on qualifiera de littéraires. Les rêveries du promeneur solitaire, les confessions, la nouvelle Héloïse, texte qu'on qualifie de littéraire, mais où, à l'intérieur, il y a des éléments de sa pensée qui sont déterminants à prendre en compte pour ne pas le réduire qu'à un aspect de sa pensée. C'est tout ce qui fait la difficulté de Rousseau, au fond. Et c'est ce qui fait que Rousseau, trop souvent, se trouve réduit à des thèses partielles et du coup fausses, au sens où elles sont partielles et elles ne montrent pas toute la subtilité, la complexité, la contradiction interne à la pensée de Rousseau. Donc c'est comme ça qu'encore plus que pour Hobbes, certains tiennent la thèse que Rousseau c'est l'inventeur du totalitarisme, ce qui est n'importe quoi. Et bien alors, l'autre problème, c'est ce qui joue à tour aussi, c'est que les auteurs trop connus, trop réputés, souffrent d'un problème, c'est qu'ils ne sont pas lus. C'est-à-dire que comme tout le monde connaît Rousseau, personne ne le lit. Ne lit vraiment. Et ça, c'est l'autre tort classique. C'est que du coup, on croit connaître Rousseau, mais on ne l'a pas lu. Donc on peut dire tout et n'importe quoi à propos de Rousseau. Alors, effectivement, Rousseau, il est dans la même démarche que Hobbes, part d'une anthropologie, au fond, d'un mythe. C'est méthodologique, hein, souvenez-vous. Il faut l'entendre pas au sens de l'anthropologie contemporaine qui se veut une science empirique. Quoiqu'encore, l'anthropologie n'est guère une science empirique, il s'agirait plutôt de l'ethnologie, mais d'une anthropologie méthodologique, comme Hobbes. Et donc, il part d'un constat qui est l'inverse, effectivement, de celui de Hobbes. Le constat, c'est qu'à l'état de nature, l'homme est bon. Là, exemple type de méprise. On en a tiré la vulgate, c'est-à-dire l'opinion commune, que Rousseau, c'est un ethnologue naïf. Qu'il aurait dû aller faire des enquêtes de terrain comme Lévi-Strauss, qui a une grande estime pour Rousseau, entre nous soit dit, et qu'il aurait vu que le bon sauvage, ça n'existe pas. Et la formule se résume comme ça. Rousseau a inventé le mythe du bon sauvage, mais le bon sauvage, c'est mythique le fait qu'il soit bon. C'est un contresens pour le coup total sur Rousseau. Rousseau ne prétend pas établir que les sociétés primitives, comme on dirait d'un point de vue ethnologique, étaient des sociétés naturellement bonnes. Il ne peut pas dire ça, notamment sur un point précis, c'est que pour Rousseau, là, d'un point de vue ethnologique, à partir des rudiments, des bribes d'un savoir ethnologique, dit plutôt que l'homme sauvage est un homme isolé, est un homme qui ne vit pas en société, est un homme isolé, que c'est un état dispersif que la société primitive, c'est un état de dispersion totale. Donc, c'est un état, et là, Hobbes dit la même chose, prémoral. Prémoral. La société primitive est un état prémoral où le bon, le mal, le juste, l'injuste n'existent pas. Donc Rousseau ne peut pas penser que anthropologiquement, ethnologiquement, l'homme primitif est un bon, un homme bon. Il ne peut pas le penser. Alors, il faut entendre d'un point de vue méthodologique son histoire. En fait, pour évacuer rapidement d'un premier temps, et après on entrera dans la subtilité et la complexité de la chose, il faut comprendre que pour Rousseau, ce qu'il veut dire par là, c'est que la société historique, c'est-à-dire telle qu'elle s'est constituée historiquement, est une société injuste, mauvaise. C'est-à-dire qu'au fond, autant Hobbes part d'une révolte qui est l'horreur de la guerre civile, Rousseau part d'une autre révolte qui l'amène à la dénonciation profonde, sincère, de l'injustice que la société historiquement constituée, telle qu'elle est, fait régner. Donc Rousseau a des formules très fortes là-dessus. Au début du contrat social, il montre comment la propriété... Alors, il ne dit pas la propriété, c'est le vol. Hein, ça, c'est Proudhon qui a dit ça. Mais comment la propriété... On retrouve un peu Hobbes, d'ailleurs, fondamentalement. L'exercice qui a consisté à ce qu'un individu s'arroge un droit sur les choses, c'est un exercice illégitime. Et il dit que le premier qui a dit « ceci est à moi » est un voleur. Où l'on retrouve Hobbes, d'ailleurs. Les deux disent la même chose, de ce point de vue-là. Donc, pour Rousseau, le moteur initial, c'est cette critique d'un état de société qui a perverti l'âme humaine par le fait qu'elle est instituée sur l'injustice et l'oppression. C'est les deux mots qu'il utilise. On verra des textes qui le montrent, qui l'illustrent. Et l'injustice et l'oppression provient du fait que des hommes se sont arrogés un droit sur les choses et les autres hommes sont devenus les puissants et les riches. Qui ont... Alors là, on a une lecture, une critique pré-marxiste, c'est-à-dire qu'en gros, Marx s'inspire directement de Rousseau, ne dit pas autre chose. C'est-à-dire que du coup, l'ordre institué de notre société et les institutions de notre société ne peuvent pas fonctionner parce qu'elles ne traduisent que l'état de domination des puissances sur les faibles. Voilà le véritable point de départ qui est à la fois anthropologique, politique, éthique de Rousseau. Ce qu'il ajoute à partir de là, c'est que c'est ce processus historique qui crée le mal. Rousseau dit à un moment donné « j'ai vu le mal ». C'est une formule choc. « J'ai vu le mal ». Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en tant que fin observateur de la société qui l'environne, il a vu des situations, pour lui insupportables, d'oppression de pauvres gens. Et Rousseau aime beaucoup les paysans, les enfants, les femmes, tous les êtres qui, de son temps, subissaient le maximum de domination et d'oppression. Et au milieu de ces gens-là, il voit l'oppression à l'œuvre. Voilà, il dit « j'ai vu le mal et je veux penser une société qui en finirait avec ce mal ». Voilà la problématique de Rousseau. Alors, c'est à partir de là que vient l'idée du bon sauvage, mais entendez là uniquement méthodologiquement, c'est-à-dire que ce qu'il veut dire par là... Alors c'est en ce sens-là qui se différencie de Hobbes quand même. Ce qu'il veut dire par là, c'est que l'homme naturellement n'est pas mauvais. Ce n'est pas le destin fatal de l'homme d'être mu par le mal. Le mal est une construction des hommes. Donc en fait, Rousseau est l'inventeur de ce mot qui est celui repris par tous les gens qui, à différentes périodes, se révoltent contre un état d'oppression, qui dit « ce n'est pas une fatalité ». Rousseau, son constat de départ, « ce n'est pas une fatalité ». La domination, l'oppression, l'injustice, le mal social, ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas une fatalité parce que l'homme, naturellement, n'est pas destiné à cela encore. Voilà le point de départ de Rousseau. Alors, on ne va pas aller plus loin là-dessus aujourd'hui parce qu'après, ça demande des développements pour entrer dans la subtilité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Rousseau va tenter de penser une anthropologie, une politique et une éthique à partir de deux principes qu'il estime être consubstantiels de la nature humaine à part égale. C'est l'instinct de conservation, c'est ce que reprend Hobbes, uniquement Hobbes, vous l'avez compris, donc j'espère, toute sa logique considère que le seul moteur possible, c'est de s'appuyer sur l'instinct de conservation qui fait qu'au final, l'homme peut avoir intérêt à avoir la paix et la sécurité. Donc Rousseau reprend ce principe, l'homme à l'état naturel est mu par son instinct de conservation, c'est-à-dire persévérer dans son être, ce que des philosophes appellent le conatus. Mais il y a un second principe. Et c'est ça qui est passionnant, parce qu'on ne le retrouve que chez Hobbes, dans toute cette longue période. Le second principe, c'est l'instinct d'autrui, l'instinct de l'autre, le désir de société. Et Rousseau affirme qu'il y a ces deux piliers qui sont fondateurs de la nature humaine. Et ce que dit Rousseau, c'est, dans le discours sur l'origine des langues, c'est très intéressant, il montre que les mots, la langue, ne vient à l'homme que quand il est en société, d'une certaine manière. Que l'état primitif de dispersion ne nécessite pas la langue et le langage. Or, la conscience de l'existence et l'exigence du sens de l'existence ne vient qu'après la langue, les mots. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de sens s'il n'y a pas les mots. Le sens n'est construit qu'à partir des mots que la conscience permet.